Laudetur Jesus Christus.
Déjà 11 civils tués ce jeudi dans les affrontements à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Les détails juste après les titres. Une semaine après les bombardements israéliens sur la paroisse catholique de Gaza, nous entendrons le père Gabriel Romanelli, toujours plus inquiet à propos du quotidien qu'endurent les Gazaouis. Il décide de rentrer au Mexique à cause du climat hostile à leur rencontre aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, 75 000 Mexicains ont décidé de retourner dans leur pays d'origine. Et puis enfin, c'est une décision saluée par les défenseurs de l'environnement, celle de la Cour internationale de La Haye hier, sur la responsabilité des États quant à leur émission de gaz à effet de serre. Nous verrons pourquoi il s'agit d'un avis historique.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. De nouveaux échanges de tirs à la frontière entre les armées du Cambodge et de la Thaïlande. Si les deux pays s'opposent depuis longue date sur le tracé de cette frontière, la crise en cours est la plus grave depuis 15 ans. Alexandra Sirgan, un premier bilan fait état de 11 morts.
Oui Marine, il s'agit du dernier bilan communiqué par Bangkok. Il s'agit pour la plupart de victimes d'une attaque à la roquette menée par Phnom Penh, près d'une station-service dans l'une des provinces frontalières avec le Cambodge, celle de Sisaket au nord-est de la Thaïlande. Des images relayées sur les réseaux sociaux ont montré une supérette thaïlandaise en proie aux flammes. La plupart des victimes sont des étudiants, selon des responsables provinciaux. La Thaïlande a de son côté déployé 6 avions de combat F-16 pour frapper 2 cibles militaires cambodgiennes au sol, a déclaré le porte-parole adjoint des forces armées thaïlandaises. Le Cambodge n'a pas communiqué de son côté de bilan à la suite de ces frappes. Mais les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier tôt ce matin. Ces incidents ont eu lieu près de vieux temples dans une zone contestée depuis des années le long de leurs 800 km de frontière commune, une frontière définie lors de l'Indochine française. L'ambassade thaïlandaise au Cambodge a appelé ses concitoyens à quitter le pays le plus tôt possible. De son côté, le Premier ministre cambodgien réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
Merci Alexandra. Alexandra Sirgan et de son côté Pékin se dit profondément préoccupé par les affrontements de ces dernières heures et appelle les deux pays à, je cite, résoudre leurs différends par le dialogue et la consultation. On reste dans la région. En Birmanie, la junte militaire au pouvoir revendique la prise d'une ville dans le centre du pays, la ville stratégique de Tabekin à 100 kilomètres de Mandalay, qui compte de nombreux gisements d'or. Une coalition de groupes rebelles l'avait conquis l'été dernier. C'était il y a une semaine, des bombardements d'Israël sur la seule église catholique de l'enclave palestinienne de Gaza. 3 personnes ont été tuées, 10 blessées, dont le père Gabriel Romanelli, le curé de la paroisse de Gaza, légèrement touché à la jambe. C'est la première fois que l'église était attaquée directement. Au lendemain de cette attaque, Léon XIV rappelait au cours d'une conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou l'importance de protéger les civils. Mais chaque jour, le cauchemar s'assombrit pour les Gazaouis et Israël continue ses opérations militaires, comme nous l'explique le père Gabriel Romanelli.
Hay más de 80 personas que murieron de desnutrición, incluyendo la gran parte son niños.
Plus de 80 personnes sont mortes de malnutrition, dont une grande partie sont des enfants. 1 millier de personnes sont mortes dans les centres de distribution alors qu'elles attendaient de recevoir de l'aide. C'est vraiment une tragédie, une injure à Dieu, à l'être humain. Il n'y a aucun signe d'apaisement, ni de libération des otages, des personnes privées de liberté, d'échange de prisonniers, comme nous le disons souvent, comme on le fait habituellement ici. Rien. L'aide humanitaire ne parvient toujours pas à entrer. Ce qui est entré dans le sud, ont-ils dit, c'est vraiment 3 fois rien. L'Église fait des efforts vraiment considérables pour que l'aide puisse entrer, mais il y a la famine. Les gens meurent de faim dans la bande de Gaza. C'est absolument réel. Le besoin est urgent. Or, les bombardements continuent.
Les bombardements continuent.
Voilà, depuis Gaza, le père Gabriel Romanelli, joint par téléphone par Joan Pacheco. Un accord sur l'échange de 1200 prisonniers, c'est ce qui ressort finalement des négociations entre l'Ukraine et la Russie hier soir à Istanbul. Seulement 1 heure de discussion entre les deux pays, l'Ukraine réclame un cessez-le-feu, tandis que la Russie n'envisage que des trêves de 24 ou 48 heures pour permettre aux deux armées de récupérer leurs morts et leurs blessés. Et à Kiev, la capitale ukrainienne, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier contre la loi promulguée la veille qui limite les pouvoirs des agences anticorruption. Selon les manifestants et de nombreuses ONG, cette loi renforce de façon illégitime le pouvoir du président et permettrait au gouvernement ukrainien de s'immiscer dans les affaires de corruption, un mal endémique en Ukraine. Au Mexique, selon la présidente du pays, 75 000 Mexicains vivant aux États-Unis ont fait le choix de rentrer volontairement dans leur pays et c'est en raison du climat hostile qui plane sur la communauté latino. Les explications à Mexico de Diego Calmar.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, près de 75 000 Mexicains ont quitté volontairement les États-Unis pour se réinstaller au Mexique. C'est un chiffre avancé hier par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ces 75 000 retours volontaires ont cependant lieu dans un contexte d'intensification des descentes de police, des détentions et des expulsions de personnes en situation irrégulière aux États-Unis, notamment à Los Angeles, ville qui concentre le plus grand nombre de Mexicains hors de leur pays. Claudia Sheinbaum avait, au moment de la prise de pouvoir de Donald Trump, lancé un programme pour aider au rapatriement des ressortissants souhaitant quitter les États-Unis, en plus d'une aide économique. Mardi, Claudia Sheinbaum a exhorté Washington à renvoyer chez eux les Mexicains risquant de se retrouver dans des centres de rétention américains où les ONG dénoncent des traitements dégradants envers les migrants. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Les États-Unis entendent être, je cite, les plus puissants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cela passe, selon Donald Trump, par une dérégulation en masse. Une feuille de route a été présentée cette nuit. Elle vise à faciliter la construction de nouveaux centres de données, de développer la diplomatie de l'intelligence artificielle, en comprenant l'exportation de l'IA, et enfin interdire les différents services qui pourraient contrôler les contenus générés par l'intelligence artificielle. C'est une décision que certains qualifient déjà d'historique. La Cour internationale de justice à La Haye, la plus haute juridiction des Nations Unies, estime dans un avis rendu hier que les États ont une responsabilité juridique quant à leurs émissions de gaz à effet de serre. Un avis juridique qui peut paraître très rhétorique mais qui pourrait pourtant avoir de nombreuses conséquences futures. Les explications depuis Bruxelles. Celle d'Elena Loison.
Oui, les juges de la Cour internationale de justice devaient répondre à deux questions. Quelles sont les obligations des États en matière de protection de la planète et quelles sont les conséquences juridiques de ces obligations pour les États? À ces deux questions, la Cour a répondu, et c'est rarissime, à l'unanimité, en mettant les États pollueurs face à leurs responsabilités. Elle estime que le dérèglement climatique est une menace urgente et existentielle, que les traités actuels sont insuffisants et que les États ont pour devoir de protéger les générations futures, reconnaissant ainsi un droit légal à des individus qui ne sont pas encore nés. Conséquence, la Cour estime que les États doivent prévenir les préjudices climatiques et ont donc la responsabilité juridique de leurs émissions de gaz polluants. Une décision majeure car elle ouvre la voie à des demandes de réparation de la part d'États affectés par les conséquences du réchauffement climatique. Ce texte, qui offre un nouveau fondement juridique, a été salué par de nombreux défenseurs de l'environnement. Même s'il n'est pas contraignant, il devrait servir de référence aux juridictions nationales dans les nombreux procès en lien avec le climat ouverts un peu partout dans le monde. Bruxelles, Elena Loison pour Radio Vatican.
Illustration de l'importance de cette décision, on apprend que dans l'archipel des Tuvalu, qui fait partie des États insulaires du Pacifique directement touchés par la montée des eaux, près de 80% des habitants cherchent à obtenir un visa climatique pour aller vivre en Australie. Et toujours au chapitre du climat, réunis à l'occasion de leurs 50 ans de relations diplomatiques, la Chine et l'Union européenne s'engagent à renforcer leurs efforts aujourd'hui à Pékin pour lutter contre le changement climatique et à tout faire pour mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris. Et avant de se quitter, sachez que Notre-Dame de Paris a désormais retrouvé toutes ses statues. La dernière des 16 statues ornant la base de la flèche de Notre-Dame, qui avait été retirée quelques jours avant l'incendie, a été réinstallée ce midi. Merci de votre écoute. L'information revient demain matin en direct de Rome. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi.